Je vous invite à retrouver encore l'évangile de Jean, chapitre 14. Nous lisons à partir du verset 15. Encore. C'est le Seigneur qui parle à ses disciples dans la chambre haute le soir avant sa crucifixion. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens vers vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Et parce que je vis, vous aussi, vous vivrez. C'est la bonne traduction. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Nous avons écouté notre méditation sur ce passage dimanche passé, nous avons surtout vu que si quelqu'un aime Jésus-Christ, il lui obéit. C'est la caractéristique du vrai disciple, c'est la marque de tout vrai croyant. Mais nous voulons maintenant reprendre le discours de notre Seigneur, l'écouter attentivement, parce qu'il nous parle de trois choses qui arrive aux disciples qui aiment Jésus et qui lui obéit. Vous avez vu dans les versets 16, 21 et 23 qu'à trois reprises, Jésus dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements ou mes paroles. » Et après chacune de ces trois phrases, il nous raconte quelque chose qui va vous arriver, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ, et qui gardait ses commandements. Avant de regarder chacune de ces trois choses qui sont liées, il faut que nous regardions la forêt avant les arbres et que nous comprenions tout simplement que le Seigneur veut nous dire que quelque chose arrive aux vrais disciples de Christ. Quelque chose qui lui arrive. La vie chrétienne est une vie de contact avec Dieu. Et ce qui nous arrive tout au long de notre pèlerinage ici, c'est que le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent vers nous, viennent en nous, demeurent en nous, se manifestent à nous. Et nous avons une vraie vie. C'est une invasion, la vie chrétienne. Nous le voyons dans ces trois versets clés, je dirige vos yeux d'abord vers le verset 16. Regardez avec l'idée de ce contact, cette invasion de Dieu, du Dieu trinitaire dans notre vie. 16, « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Et si nous allons plus loin Dans le verset 21, celui qui a mes commandements, qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui, à toi le croyant. Quelque chose t'arrive. Et troisièmement, dans le verset 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Chez toi, le croyant, quelque chose t'arrive. D'une manière subjective et expérientielle. Donc, la dernière chose à dire avant d'examiner ces trois parties, c'est que ces trois choses, le Saint-Esprit nous est donné, il demeure en nous. Deuxièmement, Christ vient vers nous et se manifeste à nous. Et troisièmement, le Père et le Fils viennent faire leur demeure en nous. Ces trois choses ne sont pas trois étapes successives de la vie chrétienne. D'accord? C'est trois manières de décrire la même chose. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient faire son habitation, c'est justement afin de manifester Christ à nous. C'est afin de nous faire voir Christ, c'est pourquoi j'ai fait lire ce passage par Callaghan, que là où l'Esprit se trouve est la liberté, et nous tous, le visage découvert, nous contemplons la gloire du Seigneur Jésus-Christ, et nous sommes transformés par l'Esprit. L'Esprit nous fait contempler Christ. Donc, le ministère du Consolateur, en partie, c'est d'agir en sorte que le Christ se manifeste à nous. Et troisièmement, le Père et le Fils, quand ils viennent faire leur demeure, mais concrètement, je sais que vous êtes habité par Dieu, mais ça ne parle pas d'un fait objectif, ça parle de votre expérience, que de plus en plus, vous vivez l'expérience que Dieu est à l'aise, Dieu est chez lui. En vous, dans votre vie. Et vous vivez cela de plus en plus. Parce que regardez, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et la suite, l'effet, le résultat du fait de cette obéissance croissante, c'est que vous devenez une personne de plus en plus ajustée à Dieu, à qui il est, et Dieu se sent de plus en plus à l'aise de se mettre chez lui en vous. C'est le sens de ce passage. Vous savez quand même que quelqu'un peut être dans un endroit sans être là. Vous n'avez jamais vécu une réunion, vous êtes tous dans une pièce et il y a quelqu'un là qui est plus capable de dire des choses importantes sur le sujet que personne d'autre dans la salle. Mais cette personne se garde en retrait. La personne, toute sa connaissance, toute sa sagesse sur cette question, c'est comme si ça n'existait pas dans cette pièce. Parce que la personne ne se manifeste pas. Il y a une différence entre la présence de quelqu'un et la présence manifeste de quelqu'un. Et Jésus ici, quand il dit, moi, si vous êtes obéissant, moi et le Père, nous viendrons faire notre demeure en vous, il parle de sa présence manifeste. D'accord? Et donc, nous avons compris qu'il y a quelque chose qui nous arrive. Ce quelque chose, c'est que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, parce que les trois sont là, en train de faire cette action, cette activité dans notre vie, le Dieu Trinitaire vient se faire connaître et vient se demeurer en nous et avec nous. Ok, nous allons les prendre une après l'autre rapidement. D'abord, l'Esprit demeure en vous, chers chrétiens, qui aimez Jésus et qui gardez sa parole. Nous lisons donc dans le verset 15 encore, que Jésus dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, parce que Jésus est le premier consolateur, et le mot autre en grec, signifie autre de la même sorte. Il y a deux mots grecs. Il y a un mot qui veut dire autre, mais d'une qualité différente, et un mot qui veut dire autre et de la même qualité, et c'est ce mot que Jésus utilise. Il dit, je vous donnerai un autre consolateur exactement comme moi. Il est exactement comme moi. Qui soit éternellement avec vous. Ça ne finit même pas au paradis. Votre habitation par l'esprit. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas, mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. La première chose à dire, c'est que Dieu, ce qu'il vous donne en tant que chrétien, ce n'est pas simplement des bénédictions impersonnelles ou des grâces ou des vertus, il se donne lui-même. Le Dieu trinitaire se donne à vous lui-même. Ce qu'il vous donne, c'est lui. Et quand l'amour est grand, c'est ce qu'on donne, on se donne. Quand un homme aime une femme et l'épouse, qu'est-ce qu'il lui donne? Il ne lui donne pas simplement des choses, il se donne. Et c'est ça que Jésus veut dire. Je vous donnerai un autre consolateur, Dieu lui-même. L'Esprit se donnera pour toujours à vous. Maintenant, Jésus dit qu'il est le consolateur, le paraclétos, ça c'est le mot. Et ça veut dire quelqu'un qui est appelé à venir à vos côtés comme soutien ou avocat pour soutenir votre cause ou pour vous aider d'une manière ou d'une autre. Et nous allons revenir sur ça dans un moment. Mais après avoir dit qu'il est le consolateur pour vous ou le paraclétos, il dit qu'il est l'esprit de vérité. Je vous donnerai un autre soutien. L'esprit de vérité. Pourquoi est-ce qu'il le qualifie comme ça? L'esprit de Dieu est venu habiter en vous spécifiquement dans sa qualité d'esprit de vérité. Parce que, écoutez bien, toute l'activité de l'Esprit Saint dans une personne se passe à travers la vérité de la parole. L'esprit et la parole ne sont jamais séparés. Il y a des gens qui croient dans l'activité de l'esprit de Dieu sans lien avec la vérité biblique. Et n'importe quoi peut, c'est un peu mystique, mais il vient en tant que l'esprit de vérité pour vous enseigner toute la vérité. Et plus tard dans sa prière, ce même soir, Jésus dit, sanctifie-les par la vérité, ta parole. Et la vérité. Et l'esprit de la vérité prend la parole de la vérité et il vous fait croire, il vous montre que c'est vrai. Ce qui est vrai sur Dieu, ce qui est vrai sur vous-même, ce qui est vrai sur ce monde et sa nature éphémère, ce qui est vrai sur l'éternité, ce qui est vrai sur l'amour de Dieu et la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et il vous fait voir cela et c'est comme ça. Qu'il vous sanctifie et vous transforme par la vérité. Donc, mais je pense que essentiellement, ce que nous devons comprendre ici, c'est que Jésus est en train de vous dire, en tant que chrétien, que dans son amour, le Dieu trinitaire veut que vous ne soyez jamais, jamais, jamais et jamais seul. Afin qu'il soit éternellement en vous et avec vous. Ça veut dire que Dieu lui-même, et c'est tellement miraculeux que nous ne pouvons pas le mesurer, Dieu lui-même qui connaît vos pensées, qui prévoit vos tentations, qui se soucie de votre paix et de votre sainteté, qui peut tout, qui sait tout, il est venu demeurer dans le tréfonds de votre être pour être tout pour vous. Il n'y a jamais un moment où il y a une exigence de la vie chrétienne auquel vous devez faire face tout seul. Jamais. Ça n'existe pas. Quand vous méditez la Bible, il est là pour illuminer. quand vous priez, c'est lui qui est là pour donner le désir et pour guider dans la prière. Quand vous devez répondre à la tentation, c'est lui qui agit dans votre cœur pour vous donner des désirs qui contre les tentations, les convoitises du monde. C'est lui qui est là pour vous pousser à chercher Dieu, à vouloir Dieu. C'est lui qui est là pour guider. Il n'y a jamais un moment où le chrétien fait quelque chose tout seul. Nous vivons sous la domination et sur cette activité, c'est comme un vent qui nous porte du Saint-Esprit. Pas de manière à effacer notre besoin d'agir, nous devons agir, hein? Mais nous sommes aussi portés par Dieu dans toutes nos actions quand nous dépendons de lui. Alors, Jésus dit que c'est lui qui va prier l'Esprit et prier le Père pour nous donner l'Esprit. Et il dit, vous le connaissez parce qu'il est avec vous, auprès de vous, et il sera en vous. C'est un peu curieux. Est-ce que ça veut dire que les croyants avant la Pentecôte n'étaient pas habités par le Saint-Esprit? Je ne pense pas. Je pense que Jésus emprunte ce langage parce que c'est la seule manière de décrire la différence entre l'expérience spirituelle des disciples avant la Pentecôte et après. Il est avec vous et il sera en vous. L'Esprit les a régénérés. Ils sont nés de nouveau par l'activité, la présence de l'Esprit déjà. Mais c'est comme s'il est là dans une mesure tellement moindre que maintenant, après la Pentecôte, dans sa présence manifeste, il sera en vous, manifestant toute sa présence. D'accord? David dit, « Ne retire pas ton Saint-Esprit de moi. » David savait qu'il était habité par le Saint-Esprit. D'accord? Mais cette habitation grandit dans tout son sens et sa puissance après la Pentecôte. Les croyants avant la Pentecôte n'ont pas la mesure du Saint-Esprit, de son activité, de sa présence manifeste que vous avez maintenant. Et la dernière chose que nous voyons dans cette partie, c'est une parenthèse. Je vous donnerai un autre paraclétos. Qu'est-ce qui arrive dans la tête des 11 disciples? Tout de suite. C'est très bien un autre paraclétos. Mais toi, Seigneur, toi. Et donc, il explique dans le verset 18, tout de suite. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens vers vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra pas plus, mais vous, vous me verrez. Il y a des commentateurs qui pensent que Jésus est en train de parler de « Je viendrai vers vous par le Saint, juste dans la venue du Saint-Esprit, c'est comme si je venais. » Non, il parle de ses apparitions après la résurrection. « Je viens vers vous, vous me verrez. Le monde ne me verra pas, vous me verrez. » Et il dit ici, « Et parce que je vis, vous vivrez aussi, et en ce jour, vous connaîtrez que je suis dans le Père. » Et vous en moi et moi en vous. Le Seigneur les rassure, il ne va pas les laisser orphelins. Il leur dit, parce que je vis, c'est-à-dire parce que je serai ressuscité avec une vie de ressuscité, vous aussi, vous allez vivre avec cette vie de résurrection. Hein? Ce que nous sommes aujourd'hui, chers amis, ça vient de ce que Jésus est devenu. Parce que je vis dans la puissance de la résurrection, vous aussi, vous y vivrez. D'accord? Ce qu'il a, il nous donne. Ce qu'il a gagné par sa croix, il nous communique. Mais il dit une dernière chose qui est importante pour nous. Il dit, en ce jour-là, vous allez connaître, vous allez comprendre que, il faut que je le lise pour le reprendre dans les termes exacts, il dit, en ce jour-là, Vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. Regardez ça, c'est intéressant, n'est-ce pas? Il parle à la fois de l'union intime entre lui et le Père et l'union de lui avec le chrétien. Nous savons que les trois personnes de la Trinité vivent dans une union ineffable. Ils s'interpénètrent d'une manière mystérieuse. L'Esprit de Dieu ne peut pas être quelque part sans que le Père et le Fils soient là aussi. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas vivre en isolation du Père. C'est impossible. La nature même de la Trinité, c'est trois personnes qui demeurent l'une dans l'autre, depuis toujours et pour toujours, d'une manière complètement mystérieuse. C'est comme la seule analogie que la Bible peut prendre pour aller jusqu'au bout, c'est l'acte sexuel entre l'homme et la femme. Les deux deviennent une seule chair, mais moi je dis cela plutôt par rapport à Christ et l'Église. C'est cette union tellement proche et cette union est similaire seulement, mais similaire, dit Jésus, à l'union dans la Trinité. Alors, je voudrais vous raconter une petite histoire qui est vraie pour juste nous aider à comprendre cela. C'est le récit de la mort d'une fille de 18 ans qui s'appelait Anne Peck. Alors, Anne Peck est morte à Cincinnati le 21 novembre 1842. Elle était une jeune demoiselle particulièrement pieuse, d'une famille vraiment qui suivait vraiment de près le Seigneur. Et elle était dans un lit de mort pendant des mois avant de mourir enfin. Elle a eu pendant cette période une expérience vraiment exceptionnelle du Seigneur, comme parfois le Seigneur donne à quelqu'un sur son lit de mort. C'est absolument exceptionnel. Et un livre a été écrit à son sujet. Son pasteur était témoin des événements, sa famille, son père pieux, sa mère pieuse et bien d'autres voisins. Et donc je commence le récit avec un extrait de la lettre de son papa qu'il a écrit le jour de sa mort, après son décès, quelques temps après son décès, mais le même jour, à ses autres enfants qui étaient loin. Il dit ceci. En parlant de ce qu'il avait déjà écrit, et il reprend son écriture. J'avais écrit jusqu'à présent lorsque l'une des scènes les plus surprenantes et les plus intéressantes s'est produite, dont j'ai jamais été témoin. Les mots me manqueraient pour le décrire. Je ne pourrais donner qu'une faible idée. Anne avait pu, à cause de sa toux, converser très peu. Quand très soudainement, elle retrouvait la voix. Et bien que sa respiration fût inhabituellement rapide et son pouls continuant à 160, elle parla avec une voix plus forte, plus claire, plus distincte que depuis de nombreux mois. Son visage était comme une lumière possédant une luminosité surnaturelle. Je pensais que c'était un visage comme celle de Moïse quand il est descendu de la montagne. Son langage était élevé. Et les sentiments exprimés dépassaient largement ses années. Je la regardais avec stupéfaction et ne réalisais qu'à peine qu'elle était ma fille Anne. Je ne peux pas vous en donner une description détaillée car cela remplirait une feuille entière. Je présume que MB, je pense qu'il fait référence au pasteur, qui était avec d'autres personnes jusqu'à 2 h le matin, a relevé par écrit le contenu de la conversation. Si c'est le cas, je vous l'enverrai. D'accord? Maintenant, je termine l'extrait du Lettre de la Paix. Je reprends le livre où on va avoir maintenant le témoignage écrit du pasteur. Le pasteur dit, n'oublions pas, pardon, je lis juste une remarque de l'auteur du livre. Sans plus retenir les lecteurs, nous allons maintenant donner les circonstances de ce cas remarquable telles qu'elles ont été présentées dans le sermon de son pasteur. Voilà. Voilà le pasteur. ce qu'il dit. N'oublions pas, pendant qu'elle était dans une santé normale, comme nous l'avons dit précédemment, elle a peu parlé de ses sentiments religieux à qui que ce soit d'autre que sa mère. Et même avec sa mère, elle était réservée d'ordinaire. C'est une fille assez modeste. Il y avait peu d'enthousiasme dans sa nature, peu d'affection pour le spectaculaire, pas de débordement de sentiments animaux, pas d'indication de tempérament nerveux. Ses traits caractéristiques étaient la délicatesse du sentiment, la réserve d'humilité, l'amour de la vérité et la méfiance de soi. Ceux-ci l'ont effectivement empêché de s'adonner à quoi que ce soit comme des extases ou d'autres expériences d'illuminés. L'auteur explique, quand son pasteur entra dans la pièce, surpris devant son apparence inhabituelle et surnaturelle, il s'écria, vous imaginez la scène, la famille est là, elle est sur le point de mourir, il entre dans la pièce et il s'écria, quel visage! Une luminosité peu commune apparut sur son visage qui sembla éclairer son oreiller et en être réfléchi. Ce phénomène remarquable a étonné chacun présent. Tous sont d'accord pour dire, nous n'aurions jamais pu croire si nous ne l'avions pas vu. Regardez, regardez, voyez seulement, disaient plusieurs voix sur un ton refoulé pour attirer l'attention d'amis qui étaient occupés dans différentes parties de la pièce. Mais nous citerons le langage de son pasteur dans son sermon funèbre. Il a été témoin oculaire de ce qu'il raconte et décrit la scène sans coloration ni exagération. Citation du pasteur. Aucun langage humain ne peut transmettre à une personne qui n'en a pas été témoin une idée juste, que ce soit de son apparence cette nuit-là, ou de la force et du sens de ce qu'elle disait. Il était difficile de résister à l'impression qu'une lumière surnaturelle brillait sur son visage et son oreiller. Les mots du récit du martyr Étienne sont les seuls mots qui décrivent ce que nous avons vu. Tous ceux qui étaient dans la pièce, la regardant fixement, la virent comme s'il s'agissait d'un ange. C'est des gens qui sont pas charismatiques, ces gens qui parlent. C'est des vieux réformés. Elle a souri, elle a embrassé ses amis, elle leur a dit qu'elle était incroyablement heureuse, dans des tons de douceur et de clarté étonnantes. Elle a envoyé des messages très touchants et appropriés à ses amis absents et a chanté de joie même de son cœur. « Dis-lui, dit-elle, en parlant d'une sœur absente de l'Église, dis-lui de mener une vie sainte. Garde toujours le Sauveur dans sa pensée et qu'elle n'aura jamais de problème. » Elle dit que le Sauveur ne lui semblait plus être proche d'elle, Anne, en mourant, mais elle a insisté sur le fait qu'elle était en Christ et que Christ était en elle, se référant à l'unité de Christ et de son peuple, de même que Christ est un avec le Père. « Je suis en eux et vous en moi. » Anne lui demanda quelqu'un, « Qu'est-ce qui te rend si heureux ?»« C'est mon Sauveur, répondait-elle. Il est ici, il est avec moi. » Depuis combien de temps es-tu dans cet état ? Quelqu'un lui demanda. « Mère, répondit-elle, tu te rappelles quand je lui ai dit, quand j'ai dit, il est en train de venir, il est en train de venir. Je suis comme cela depuis ce moment-là. » Mais que fait le Seigneur et comment vous apparaît-il ? Demanda quelqu'un. Je ne vois rien de plus que ce que j'ai jamais vu, sauf par la foi. Mais c'est comme la vue maintenant. Il est venu et m'a regardé. Et il a dit, je suis prêt à te rendre aussi doux que moi, tout patient comme moi, tout charmant comme moi. En effet, il a semblé qu'il était toujours présent devant moi, mais je ne l'avais pas encore vu. Il semblait avoir attendu que je devienne suffisamment parfaite. Est-ce que Christ semble te regarder ainsi maintenant? Il est en moi, dit-elle avec insistance. Je suis en lui. Il y a un tel lien que je ne peux pas décrire. On dirait que le Seigneur est juste là où je suis. En fait, je semble être à l'intérieur de moi, dit-elle en posant sa main sur sa poitrine. Ses mots semblaient ne pas venir de ses lèvres, mais de l'intérieur. C'est merveilleux, oh que c'est merveilleux, je ne peux pas vous le décrire. Percevant qu'elle semblait presque inconsciente de son existence physique extérieure, j'ai répété le texte. C'est le pasteur qui lui parle. Vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est ça, s'écria-t-elle avec instance. Cela décrit exactement ce que je ressens. Et il me semble que je peux comprendre un peu comment trois personnes existent dans un seul Dieu. Même si je ne peux pas le décrire, il semble que je suis seulement, certainement en Christ et lui en moi. Vous voyez comment, sur le point de mourir, son union avec Christ, vraiment compris, lui fait comprendre l'union de la Trinité, comme elle n'a jamais compris. J'ai répété les paroles du Christ dans sa dernière prière, qu'il soit un, comme toi, Père, et en moi, et moi en toi, qu'il soit aussi un en nous, et encore moi en eux, et toi en moi, afin qu'il soit rendu parfait en un. Son plaisir d'entendre ces paroles de Christ répétées semblait indescriptible. Sa joie rayonnait comme des flots de lumière provenant de tous les traits de son visage. Elle a répété les paroles de Jésus comme si elle avait craint que ce qu'elle expérimentait était une fausse expérience, jusqu'à ce que ces paroles de la Bible lui soient rappelées, décrivant exactement cette unité qu'elle venait de ressentir. Je suis presque à la fin. Mais ce qui m'a frappé le plus, dit le pasteur, c'est l'explication de trois personnes existant dans un seul Dieu, suggérée dans son esprit uniquement par sa propre union avec Christ. À ce moment-là, elle ne pensait qu'à ce qui se passait en elle, et elle parlait avec une légère surprise, comme quelqu'un qui venait de découvrir une vérité nouvelle et merveilleuse. C'est formidable, n'est-ce pas? C'est absolument merveilleux. Et ça nous fait comprendre que Jésus dit que quand le Saint-Esprit va venir, en ce jour-là, nous allons commencer à comprendre que Jésus est dans le Père, mais nous sommes en lui et il est en nous. Beaucoup plus rapidement. La deuxième chose qui nous arrive, c'est pas seulement le don du Consolateur, mais c'est que le Fils de Dieu Jésus vient se manifester à vous. Jésus dit donc dans ce verset 21, Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Maintenant, Jésus parle de tous les croyants. Il dit, si quelqu'un m'aime, qui que ce soit. Et il dit dans ce verset que celui qui lui obéit, c'est celui qui l'aime, et celui qui l'aime sera aimé de son Père, moi aussi je l'aimerai. Je vous ai dit l'autre jour dans la réunion de prière que ici nous avons l'amour de Dieu qui est conditionné sur notre amour pour lui. Nous savons que l'amour par lequel Dieu nous sauve ne dépend pas du fait que nous l'aimons, c'est juste le contraire. En ceci est l'amour, non pas que nous avons aimé Dieu, mais qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils mourir pour nous. Mais une fois que nous sommes chrétiens, cet amour inconditionnel, Dieu nous aime point, Dieu nous aime malgré ce que nous sommes, cet amour continue, mais il y a un autre aspect de l'amour de Dieu qui se manifeste dans notre vie. Rappelez-vous que l'amour est multifacette. Et cet amour, cette nouvelle facette de l'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour de grâce, je t'aime malgré ce que tu es, c'est l'amour de plaisir. Je t'aime à cause de ce que tu es en train de devenir. Je prends plaisir en ce que tu es en train de devenir. Jésus dit, si tu m'aimes, je vous dis, si vous aimez le Seigneur et que vous gardez ses paroles, le Père va commencer à prendre plaisir de plus en plus en ce que vous êtes, le Christ aussi. Et en raison de cela, le Seigneur Jésus, de plus en plus, va se manifester à vous. Cette manifestation, c'est une manifestation spirituelle. Ce n'est pas une apparition post-résurrection de Jésus. C'est fini. Paul est le dernier. Paul dit, je suis le dernier à voir le Christ, dans 1 Corinthiens 15. Le Christ ressuscité corporellement. Ce n'est pas non plus une vision de Christ comme Étienne a eu juste avant de mourir, comme Jean a eu sur l'île de Patmos. Non, ici, quand Jésus dit, je vais me manifester à vous, quand vous marchez dans l'amour et l'obéissance envers moi, il veut dire que simplement il y a une illumination spirituelle par laquelle le Christ se manifeste et avec l'œil de la foi, vous le voyez de plus en plus clair. Alors, ça, c'est une chose qui arrive pendant toute la vie chrétienne. Le Christ se manifeste à vous quand vous méditez, quand vous priez, peut-être par un message biblique, dans une étude biblique, par les moyens de grâce collective de l'Église. Le Seigneur est constamment en train de venir se manifester à son peuple. C'est une chose, ça, c'est une chose ordinaire. Il y a aussi parfois des manifestations extraordinaires qui ne sont ni physiques ni visionnaires. Charles Spurgeon décrit ça et puis on va aborder le dernier point. Je cite juste une citation bien plus courte de Spurgeon. Écoutez bien. Il parle de ces fois où Christ vient vers lui d'une manière particulière. Il dit « La nuit sur notre lit » il est tellement modeste, il ne dit pas « mon lit », il dit « notre lit ». Nous avons vu l'invisible. J'ai parfois essayé de ne pas dormir sous un excès de joie. Lorsque la compagnie de Christ dans toute sa douceur a été ma part. Ici, un verset biblique. Tu m'as visité la nuit. Croyez-moi, dit Spurgeon, il existe des visites personnelles de Jésus à son peuple. Il ne nous a pas abandonnés à nous-mêmes. Bien qu'il ne soit pas vu physiquement par le buisson, le ruisseau, ni sur la montagne, ni par la mer, il va et il vient, observé uniquement par l'esprit, ressenti uniquement par le cœur. Me demandez-vous de décrire ces manifestations du Seigneur? Il serait difficile de vous le décrire avec des mots. Vous devez les connaître vous-même. Si vous n'aviez jamais goûté à la douceur, aucun homme vivant ne pourrait vous donner une idée du miel. Pourtant, si le miel est là, vous pouvez goûter et voir. Savoir que Jésus même est une chose, mais être visité par lui en amour, c'est autre chose. Ce n'est pas non plus une simple contemplation de Christ, car nous pouvons le voir comme extrêmement beau et majestueux sans l'avoir consciemment près de nous. Aussi charmant et instructif que de le contempler la ressemblance de Christ, le visage de Christ par la méditation, la jouissance de sa présence actuelle est quelque chose de plus. Et il finit en disant, « Je peux porter le portrait de mon ami sur ma personne, mais ne pas être en mesure de dire, « Tu m'as visité. » Dernièrement, le Père et le Fils font leur demeure chez nous. Et Jésus dit dans ce verset 23, « Celui qui m'aime, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Pourquoi est-ce que Jésus parle comme ça? Parce qu'il veut que nous sachions que l'activité de Dieu dans votre vie en tant que croyant, ce n'est pas seulement le don d'un soutien qui est avec vous et qui vous aide, c'est une part. Ce n'est pas non plus simplement des manifestations, des visites, tu m'as visité de temps en temps, mais c'est aussi, on peut le qualifier d'une demeure permanente. qui se vit de plus en plus profondément et qui est à nous. C'est pas que Dieu va et vient, c'est que Dieu s'installe. Père et Fils, par la présence du Saint-Esprit, nous avons leur communion. Et Jésus dit, c'est à cause de l'amour. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et moi, je l'aimerai. Et nous viendrons à cause de ce plaisir que nous avons en lui. C'est fou, ça. Et nous allons faire ressentir de plus en plus notre demeure, que nous sommes chez nous dans ta vie. Le Seigneur avait commencé il y a seulement quelques moments en disant « Je m'en vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. » Mais écoutez bien, en attendant ce jour-là, mon Père et moi, nous venons faire notre maison en vous. Et toute personne qui va pouvoir vivre dans la maison du Père est une personne qui est en train d'ajuster sa vie. Celui qui m'aime garde ma parole, qui est en train d'ajuster sa vie pour que le Père et le Fils fassent leur maison en lui. Et le fait que le Père et le Fils puissent être à l'aise en vous montre que vous êtes aptes à aller chez eux. Nous pouvons facilement comprendre que notre expérience, que Dieu fasse sa demeure chez nous, dépend de notre vie d'amour et d'obéissance croissante. Vous avez tous vécu une situation d'aller dans un endroit qui pue tellement, la puanteur, que vous ne pouvez pas y rester. Vous devez peut-être y passer pour un besoin quelconque, mais vous quittez dès que vous pouvez. Et si votre vie a une puanteur morale, vous n'allez pas expérimenter cette demeure du Père et du Fils qui sont saints. Mais de plus en plus, nous sommes en train d'être sanctifiés, purifiés, et l'endroit devient propre à l'habitation d'un Dieu très saint, très bon, très aimant et plein de sainteté. Vous pouvez imaginer, si vous êtes parent, avoir un adolescent ou un jeune adulte qui se lève toujours du mauvais côté du lit. Le matin, cet enfant est insupportable. Personne ne veut être avec cet enfant, cet adolescent, au petit déjeuner, parce que, en tout cas, l'attitude est vraiment horrible. Et qu'est-ce qui se passe? Le coin du petit déjeuner s'évacue. Et c'est pas que les parents n'aiment pas cet enfant avec l'amour de bénévolence, l'amour je t'aime, point. Mais c'est amour de prendre plaisir en ce que tu es. J'aime être avec toi parce que tu es vraiment aimable. Ça, c'est pas le cas. Et donc, cet enfant mange souvent seul. Nous ne voulons pas être comme ça, chers amis. Et donc, je me lance une exhortation et je le lance à vous aussi, que notre vie chrétienne ici-bas se résume d'un angle, se résume dans le fait de rendre sa maison apte à sa présence. Que le Seigneur puisse nous aider. Quelle bénédiction le Seigneur nous décrit ici. Le Consolateur Dieu l'Esprit, le Fils de Dieu qui se manifeste, le Père et le Fils qui viennent demeurer chez nous. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ajustez-vous à moi. N'attendez pas que je m'ajuste à vous. Ça ne va jamais arriver. Soyons obéissants. Nous allons chanter.
253.